Aujourd'hui, nous continuons donc avec la formation du canon du Nouveau Testament, après avoir examiné les principales étapes de la formation du canon de l'Ancien Testament dans l'Église chrétienne. Alors d'abord, à quoi correspond ce titre de Nouveau Testament, qui, nous le savons tous, sert à désigner cette collection de 27 livres, collection que nous connaissons dans nos Nouveaux Testaments actuels, donc 27 livres, et qui constitue la deuxième partie de la Bible chrétienne. Pourquoi nomme-t-on ainsi, sous le vocable de Nouveau Testament, cet ensemble constitué des quatre évangiles canoniques, des Actes des Apôtres, des Épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude et de l'Apocalypse? Ce terme de Nouveau Testament, diatheke, kaine diatheke, donc diatheke, c'est dans la Septante le terme grec qui traduit le bérite hébreu, qui est l'alliance. L'alliance, terme qui est récurrent dans la Bible, et nous savons dans l'Ancien Testament qu'il y a plusieurs alliances qui ont été contractées entre Dieu et les hommes. Et donc là, nous sommes dans le cadre de la nouvelle alliance prophétisée par Jérémie. Donc, il y a un accent un petit peu différent par rapport à la signification du terme hébreu « bérit ». Bien sûr, « bérit » et « diatheke » ne sont pas éloignés, mais « diatheke » a un accent quelque peu différent. C'est un choix, il faut le dire, qui est assez significatif et qui aura une grande influence sur le vocabulaire chrétien. Donc en grec classique, ce mot de diatheke désigne une disposition, un arrangement, un acte, une ordonnance par lequel une personne qui dispose de ses biens, eh bien, teste en faveur d'une autre et en conscience, fixe les dispositions qu'elle entend imposer à cette autre personne. C'est donc le sens du terme testament. Diatheke a été traduit par testamentum, testament. Donc, une première remarque avec l'utilisation de ce terme diatheke, c'est que, comment dire, ce qui est d'abord mis en valeur, c'est l'autorité de celui qui, par cette disposition, fixe le cours des choses. Hein. C'est l'autorité. Ainsi, en utilisant le terme « diatheke », la Septante souligne à la fois, dans le même mouvement, la souveraineté absolue de celui qui teste, donc du Maître, qui n'est autre que le Seigneur du ciel et de la terre, mais également la gratuité de son acte, et sa condescendance en faveur des hommes. Les deux choses sont intimement liées. L'autorité de celui qui teste, et là c'est Dieu dont on parle, et la gratuité de son acte et la condescendance dont il fait preuve en faveur des hommes. Laquelle d'ailleurs, gratuité de son acte, apparaît bien dans les récits du Nouveau Testament, se rapportant à la scène du Seigneur, l'institution du mémorial de la Passion salvatrice du Seigneur, que l'on trouve en Matthieu 26-28, Marc 14-24, Luc 22-20. Et on trouve cette expression dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, 11-25, « Kaine diatheke ». Le Nouveau Testament, on sent, est nouveau parce que la loi, comme le dit saint Paul, eh bien la loi, elle est pédagogue, elle est préparation à la venue du Christ, parce que aussi, par son sacrifice d'amour, parce que le sacrifice du Christ est un sacrifice d'amour, l'abaissement du Fils de Dieu va jusque dans son sacrifice d'amour en faveur des hommes. Donc, sacrifice d'amour dans lequel le Christ donne une disposition testamentaire en faveur des bénéficiaires de ce sacrifice d'amour. Et cette disposition testamentaire, c'est pour tous ceux qui ont foi dans le Christ Seigneur, c'est l'héritage de la vie éternelle. Rien de moins. Donc c'est dans cette même signification que les écrivains inspirés du Nouveau Testament et les pères entendent ce mot. Toutes les fois qu'il s'agit du salut acquis et légué par la condescendance et la miséricorde du Sauveur, on peut citer plusieurs textes se rapportant à cela. Il y a Galates 3,15, « Frère à la façon d'un homme, je dis un testament d'un homme, ayant été reconnu valide, personne ne rejette ou n'ajoute. » Et au verset 17, l'apôtre dit « Je dis en effet ceci, un testament ayant été ratifié d'abord par Dieu, la loi étant advenue 400 ans plus tard, ne l'abroge pas, ce qui rendrait vaine la promesse. » Et donc c'est bien en vertu de cette promesse que l'Écriture sainte compare le salut à un héritage, ainsi que c'est dit dans Actes 20, 32 et dans Éphésiens 1, 11. En lui, nous avons reçu notre part suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Et en 1 Pierre 1,4, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, cet héritage vous est réservé dans les cieux. Donc c'est 1 Pierre 1,4. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous ouvrons le Nouveau Testament comme des héritiers, selon la parole de saint Paul à Tite, et là je cite également Tite 3,7, cet esprit il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Ces héritiers, donc, parce que le testament est un don gratuit, ces héritiers qui reçoivent ce don magnifique sans aucun mérite de l'autre part, de leur part, le don du maître de la vie. Donc, c'est en rassemblant ces 27 livres que l'Église a donné le nom de Nouveau Testament. Donc en parfaite adéquation avec son titre, en fait. Hein. Parce que d'abord, c'est la personne du Dieu-homme, la personne du Christ, qui est au centre du livre du Nouveau Testament. Car ce livre contient une parole vivante, une parole de vie éternelle, de sorte que lorsque nous le lisons, lorsque nous entrons en relation avec la personne du Sauveur, c'est le Christ lui-même qui nous parle avec une autorité souveraine. Et il y a de multiples attestations dans le Nouveau Testament, et en particulier dans l'Évangile, de cette autorité souveraine, de celle du Verbe éternel de Dieu fait chair, comme Fils qui seul connaît le Père. Je cite, « Tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Matthieu 11, 27. Lui qui a dit aussi, comme nous le voyons dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis la vérité, je suis la lumière du monde. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Les paroles, autre parole, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc il s'agit bien de l'autorité souveraine de celui qui parle, et celui qui parle n'est autre que le Verbe éternel de Dieu fait chair. Donc le Nouveau Testament, dans une relation vivante de foi, nous révèle le visage du Christ, nous dévoile son œuvre de salut en notre faveur. L'Évangile de Jean parle abondamment de ce dessein du Père qui est accompli par le Christ, de sorte que tout cela est au cœur des écrits de ce livre, dans les Évangiles, mais aussi dans les Épîtres. Nous savons aussi, et c'est pour ça que nous pouvons accorder totalement confiance au témoignage reçu des apôtres, sur lequel se fonde la foi de l'Église, nous savons aussi qu'il renferme, ce Nouveau Testament, la confession de foi des apôtres. « Tu es le Christ », dit Saint-Pierre au nom de tous les apôtres. Tu es le Christ, c'est-à-dire loin, celui qui a reçu l'onction, le Messie attendu, le Fils de Dieu vivant. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que ceux qui lisent avec la foi des disciples, ceux qui font confiance au témoignage apostolique, font, à des siècles et des siècles de distance, la même expérience intime du Christ dans leur cœur que les apôtres. Car le Christ est le même hier et aujourd'hui, et la parole de vie concerne toutes les générations. En faisant cette expérience intime du Christ dans leur cœur, eh bien, les disciples sont guidés par l'Esprit pour entrer dans le mystère du Christ, pour entrer dans une communion d'amour avec lui qui est une communion transformante, parce qu'elle est un chemin de déification. Elle est un chemin dans lequel nous sommes appelés à être par grâce, des fils de Dieu. Nous sommes appelés à être par grâce ce que celui est par nature, celui avec un grand C, c'est Dieu. Voilà, donc communion transformante. Donc la relation au Nouveau Testament, c'est une relation avec une parole vivante, c'est recevoir l'héritage du souverain des cieux et de la terre, et cet héritage, c'est la parole de vie qui doit nous conduire à la vie éternelle. Alors, comment s'est-il formé, avant d'en venir proprement dit au canon du Nouveau Testament? Il faut voir comment cet écrit s'est formé. À l'époque apostolique, on ne peut à proprement parler de livre canonique, puisque cette époque, elle correspond à la période de leur composition. Prenons par exemple les quatre évangiles. Les quatre évangiles tels que nous les connaissons aujourd'hui, tels qui nous sont donnés à lire, eh bien, ils arrivent au terme d'un processus qui comprend plusieurs étapes, trois étapes. D'abord, il y a la prédication et l'enseignement du Seigneur. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire l'heureuse annonce faite par les apôtres. Le kérigme, kérigma, c'est l'annonce, et au cœur du kérigme, il y a la mort et la résurrection du Christ. Partout, les apôtres vont se faire les héros du kérigme, et dans l'Église, le héros du kérigme, proprement dit, c'est l'évêque. Bon. La troisième étape, c'est la rédaction finale des évangiles, c'est-à-dire que il y a, pendant la période apostolique, là où les apôtres qui, en Judée d'abord, et peu à peu, en Samarie, en Galilée, en Asie mineure, en Grèce, et jusqu'à Rome, vont annoncer le kérigme, vont proclamer le kérigme, parce que le kérigme se proclame, eh bien, nous allons parallèlement assister à la formation des premiers écrits. Nous disposons à ce moment-là de ce qu'on pourrait appeler un proto-évangile jérusalémite. Donc c'est là qu'il naît, à Jérusalem. Et la troisième étape, c'est la rédaction finale des évangiles tels que l'Église nous les transmet d'âge en âge. Donc, cette rédaction finale, c'est la rédaction, la narration plus exactement, de Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans laquelle sont enchâssées les paroles du Seigneur, avec, bien sûr, des accents différents, mais sans pour autant qu'il n'y ait de contradiction entre eux quant à l'unique vérité kérigmatique que les apôtres ont annoncée. Il y a simplement des accents différents et des façons diverses de rendre compte des actes de Jésus, mais sur le même fondement. On ne saurait trouver de doctrine différente entre les quatre évangiles tels que l'Église nous les communique. Alors la première phase, c'est la prédication et l'enseignement du Christ. C'est les actes de sa vie, c'est l'accomplissement de sa mission, c'est le dévoilement progressif de qui il est, du mystère de sa personne. Et pour cela, il y a tout un déroulement, si j'ose dire, par lequel s'accomplit l'œuvre du Seigneur. Il y a le choix des disciples, il y a l'enseignement du Christ. Alors les disciples, je rappelle qu'ils sont choisis sur un mode impératif, « Viens et suis-moi », ça c'est les 12, mais qu'autour des 12, il y a de nombreux disciples. Ce sont ces apôtres, ces disciples, ou en tout cas pour un grand nombre d'entre eux parmi les disciples, des hommes et des femmes qui suivent le Christ depuis le début, comme nous dit le livre des Actes 1, 21. C'est d'ailleurs le critère le fondamental pour être reconnu comme apôtre. Vous savez, c'est l'épisode du tirage au sort d'un nouvel apôtre au début des Actes pour remplacer Judas. Et donc, le tirage au sort donne Matthias comme nouvel apôtre. Et le critère, effectivement, c'est d'avoir été témoin oculaire depuis le baptême de Jean dans le Jourdain jusqu'à la mort, la résurrection et l'ascension du Christ Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le critère fondamental. Donc, voilà le choix des disciples, l'accomplissement du dessein de Dieu, évidemment, donc, dans lequel il y a un certain nombre de signes qui sont accomplis par le Seigneur pour susciter la foi de ceux qui ont le cœur ouvert par le Saint-Esprit et pour confirmer l'endurcissement de ceux qui ne veulent pas l'accueillir. Et on notera que cet enseignement, il est oral. On n'a aucun écrit de la main de Jésus, sauf les lettres mystérieuses qui sont tracées au sol, telles que nous le rapporte le chapitre 8 de Saint Jean, relatant l'histoire de la femme adultère, où le Christ ne dit rien mais trace des lettres au sol, que l'on ne connaît pas d'ailleurs. Cela n'exclut pas pour autant l'idée qu'il puisse y avoir des scribes dans la troupe des disciples qui suivent le maître, parce que les Juifs de ce temps, grâce au système pharisien sont attentifs aux besoins d'éducation du peuple, mémorisent l'écriture, pour certains savent l'écrire, donc on n'a pas affaire à des ignorants. On a affaire, et c'est pour cette raison, on a affaire à des gens qui ont une relation tout à fait particulière à l'écriture et qui sont habitués aux procédés qui aident à la mémoriser, de sorte que elle ne fait qu'un avec eux, quoi. Quelque sorte, ils ont une grande intimité avec l'écriture. Néanmoins, il est certain que l'enseignement du Christ fonctionne essentiellement par oralité, quand bien même des scribes auraient noté sur quelque support que ce soit les logia du maître, les paroles du maître. Donc, c'est la première étape, l'enseignement, la prédication et l'enseignement du Sauveur. La deuxième étape, alors bon, je ne vais pas insister sur les différentes modalités de l'enseignement du Christ, parce que dans le prochain cours, je parlerai du machal. Le machal, qui est un procédé bien connu des Hébreux, que le grec de la Septante traduit par parabolé, donc les paraboles, et on verra que l'enseignement par parabole est un véhicule privilégié de l'enseignement du Christ. À côté des paraboles, bien sûr, il y a des paroles très directes et très clairement énoncées, mais je ne vais pas présentement aller plus loin sur cette question. On connaît la richesse de l'enseignement du Christ qui joue sur plusieurs registres, qui part auprès de ceux qui l'écoutent, qui part de réalités sensibles bien connues de tous, et qui, par son enseignement, initie à la fois ses apôtres, ses disciples, voire les foules, au mystère du royaume de Dieu. Bon, ça, c'est ce qui concerne la prédication, c'est la première étape donc, dont j'ai parlé, la prédication et l'enseignement du Seigneur. La deuxième étape, bon, là, on a encore pas d'écrit, je veux dire, on a une mémorisation des paroles du Maître, on peut avoir de manière fragmentaire des écrits qui viennent de scribes qui sont dans l'entourage du Seigneur, mais essentiellement, ça fonctionne par l'oralité, sachant que, en ce temps, la transmission par oralité est un procédé sûr, contrairement à ce qu'on peut penser à l'époque moderne. Les paroles sont... les juifs sont habitués à la mémorisation de l'écriture, les paroles sont mémorisées, les paroles du maître sont mémorisées, on les garde dans son cœur, même si on n'accède pas tout de suite à l'intelligence plénière de ces paroles, ça il faudra attendre pour les disciples, pour les apôtres, la venue du Saint-Esprit, mais on garde ces paroles dans le cœur, on les a mémorisées, et elles font partie de soi-même. Mais il n'y a pas encore d'écrit, pour l'essentiel. La deuxième étape, c'est donc le kérigme apostolique et la formation des premiers écrits. Donc c'est le cœur, je l'ai dit tout à l'heure, je n'insiste pas. Kérigma, c'est l'annonce, c'est le cœur de l'enseignement des apôtres. La mort salvatrice et la glorieuse résurrection du Christ. Cela apparaît très clairement dans les Actes des Apôtres. Nous avons plusieurs types de discours kérigmatiques dans les Actes des Apôtres. En particulier, par exemple, en Acte 2, il y a un discours, le grand discours de Pierre. Il y a plusieurs... Dans les cinq premiers chapitres des Actes, il y a plusieurs discours kérigmatiques de Pierre qui ont tous les mêmes caractéristiques. Donc, en recevant l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, les apôtres, nous le savons, accèdent à la plénitude de la vérité. Ils se souviennent des paroles et des actes du Maître. Ils en acquièrent une compréhension pleine et entière, et ils transmettent fidèlement ce qu'ils ont appris. Ceci n'est pas une affirmation en l'air, ceci est vérifiable par l'unanimité entre les apôtres. Si un apôtre s'était écarté de cet enseignement, bien évidemment, un autre ou les autres apôtres se seraient opposés à cet enseignement. Et on va le voir par la suite. Dans le temps de l'histoire de l'Église, justement, que les hérésies sont assimilées à des innovations et à des nouveautés qui ne peuvent être reçues parce qu'elles entrent en contradiction avec le dépôt sacré reçu des apôtres et avec l'unanimité qui entoure la réception de ce dépôt sacré des apôtres. Alors, ensuite, on peut dire que je voulais aussi faire une citation que je ne retrouve pas là présentement. Bon, c'est pas grave, c'est une citation de Romains 1, verset 1 à 6. Bon, c'est pas grave. La prédication des apôtres, donc prédication kérigmatique des apôtres, bien sûr, elle s'exprime de manière avec des accents qui peuvent être différents selon le contexte. Ainsi, par exemple, les discours kérigmatiques de Pierre à Jérusalem, donc, se font en milieu hébreu et avec des caractéristiques qui correspondent à ce qu'attendent les Hébreux, précisément. Parce que vous savez que les Hébreux attendaient le Messie. Donc, Pierre parle du Messie, et pour démontrer que le Messie est bienvenu en la personne de Jésus-Christ, il fait appel à la loi et les prophètes. Bon, il est bien évident que Saint Paul, prêchant à Antioche de Pisidie, annonce à son auditoire juif le Sauveur d'Israël, comme Pierre l'avait fait à Jérusalem, après la Pentecôte. Il annonce, Paul, sa résurrection d'entre les morts et la justification par la foi, mais le même Paul, prêchant à Athènes, il prêche avec des accents différents, bien sûr. Il n'est plus là en présence d'un auditoire juif, mais d'un auditoire païen. Donc, il va annoncer le Dieu inconnu, il va parler du Créateur, de sa providence, il va parler aussi de la résurrection du Christ. Et les païens, à cette occasion, nous le savons, c'est rapporté par Actes 17, 16, 34, lui feront part au minimum de leur mépris. Alors, dans l'annonce kérigmatique, il y a toujours les invariables, les fondements, la mort et la résurrection du Christ qui est le sauveur des hommes, mais l'expression du discours varie en fonction du public qui est concerné. On ne s'adresse pas de la même manière à un parterre de juifs qui sont au temple qu'à l'Aréopage d'Athènes. C'est une évidence. Pour autant, il n'y a pas de distorsion entre la prédication et l'enseignement du Christ et le témoignage des apôtres et les premiers écrits qui surgissent en cette période. Ça, c'est très important aussi, parce que vous savez que nous sommes dans l'ère des maîtres du soupçon, et que cette question donc d'une distorsion éventuelle entre l'enseignement du Christ, la prédication des apôtres et les premiers écrits qui surgissent dans cette période mérite d'être posée. Parce que les maîtres du soupçon, l'une de leurs dernières trouvailles, qui date un peu maintenant, mais c'est la distinction tout à fait factice entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Donc cette distinction établit que, en définitive, on a affaire, si j'ose dire, à deux Christ. Le premier, ce serait un maître de sagesse enseignant en Israël dans ce temps, et le deuxième correspondrait à une forgerie des premières communautés chrétiennes. Lesquelles premières communautés chrétiennes, pour les besoins de leur cause, auraient créé de toutes pièces la personne du Christ telle que nous le connaissons dans l'Écriture sainte néo-testamentaire. Alors, bon, dans cette perspective, d'ailleurs, la résurrection ne serait qu'un mythe et non un fait historiquement advenu, même si ce fait historiquement advenu se donne à connaître dans et par la foi, bien sûr, et non pas selon les méthodes de l'expérimentation scientifique. Alors bon, j'insiste pas là-dessus, mais je dirais que c'est pas si nouveau que ça, cette affaire-là, parce que, en fait, le fait de diviser le Christ, qu'il y ait plusieurs Christ, le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, bah, c'est jamais qu'un nouveau manteau de la vieille hérésie gnostique qui disait au fond la même chose, qui divisait le Christ et qui établissait la même distinction entre Jésus qui n'était un simple homme, qu'un simple homme, et le Christ qui serait descendu d'un néon supérieur sur ce Jésus-homme et qui l'aurait quitté au moment de la Passion, et celui qui aurait été crucifié n'était pas ce Christ, mais ce simple homme, Jésus. Bon, donc, vous voyez, il y a une perdurance des hérésies au travers de l'histoire, même si elles prennent des couleurs ou des accents différents. Donc, ce qu'il faut retenir... Alors, ensuite, évidemment, il faut rappeler que la tradition des Églises est unanime sur ces textes. Bien sûr, comme nous allons le voir, l'essentiel des écrits du Nouveau Testament ont été reçus unanimement, et il y a eu discussion pour certains d'entre eux avant que l'unanimité soit faite. Mais il n'y a pas d'innovation. Il y a vraiment, donc, comment dire, unanimité dans la tradition des Églises au sujet de la tradition reçue des apôtres, et le témoignage des pères l'est tout autant. Les apôtres transmettent fidèlement ce qu'ils ont reçu, et donc il n'y a pas de variation sur le contenu du message dans les lettres des apôtres aux églises qu'ils ont fondées, par exemple. Si tel avait été le cas, évidemment, il y aurait eu une opposition entre les églises, mais cela n'a pas existé. Bien sûr, comme je l'ai dit, néanmoins, il y a des accents différents dans la transmission, parce que la transmission du message, qu'il s'agisse des évangiles comme des épîtres, eh bien, est liée également à la compréhension que chaque apôtre a de ce message, et en plus, la transmission doit être également contextualisée, c'est-à-dire qu'en fonction des gens à qui on parle, on va porter ce que l'on va dire va accentuer tel ou tel aspect du mystère du Christ, sans pour autant négliger les autres. Mais donc il faut retenir que cette transmission du message est liée très directement à la compréhension que chaque apôtre a de ce message. Et enfin, il y a la rédaction finale des évangiles, telle que nous la connaissons, c'est-à-dire que cet enseignement oral du Christ, cette mémorisation de l'enseignement oral du Christ, cette prédication kérigmatique primitive, en grande partie orale, va faire l'objet d'une mise par écrit, va faire l'objet d'une écriture, mais très peu de temps après que le Christ eut quitté cette terre. Beaucoup s'employèrent à produire des écrits, et nous avons l'attestation de Luc à ce propos. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, c'est Luc qui parle, après m'être soigneusement informé, de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi, donc il s'adresse à Théophile, un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc cette écriture ne s'est pas faite n'importe comment, elle a été écrite à partir de la tradition des apôtres, bien sûr, les apôtres et évangélistes, d'un discernement des sources et avec un grand souci d'exactitude. Les écrivains des évangiles ont été habités par ce grand souci d'exactitude. Les auteurs sacrés consignent dans les quatre évangiles les événements qui concernaient le Seigneur Jésus-Christ pour le bien des églises auxquelles ils s'adressaient. Et chaque évangéliste, dans cette perspective, a opéré un choix parmi un grand nombre de matériaux qui ont été transmis par la tradition qui nous transmet donc cet enseignement du Maître et Seigneur. Et on remarque dans l'Évangile, dans les Évangiles canoniques, l'objectif est toujours d'aller à l'essentiel, en opposition, si j'ose dire, avec les Évangiles apocryphes, qui, eux, sont extrêmement bavards. Les Évangiles canoniques, eux, vont à l'essentiel. Donc, voilà. Ce mouvement de la mise par écrit, donc de l'enseignement du Maître transmis par les saints apôtres et disciples du Seigneur, a commencé de bonne heure. Par exemple, les Actes des apôtres, ça je développerai plus avant dans le cours sur l'histoire de l'Église. Les Actes des apôtres, il y a tout lieu de penser que leur rédaction correspond aux 2 années de la captivité de Paul à Rome, donc entre 61 et 63, ce qui veut dire que l'évangile de Luc est antérieur, et nous avons tout lieu de penser, en examinant par exemple la langue des évangiles, les évangiles nous sont donnés en grec, nous avons une attestation d'un Matthieu hébreu par différents écrivains ecclésiastiques et par des pères de l'Église, mais le grec des évangiles est vraiment rempli de sémitisme, ce qui témoigne d'une rédaction précoce et non pas d'une rédaction tardive. Néanmoins, il y a plusieurs raisons qui ont amené à cette rédaction définitive. C'est que, à cause des mouvements hérétiques, la tradition orale pouvait être manipulée par ces mêmes hérétiques, et donc il s'impose à ce moment-là la nécessité d'écrits qui transmettent fidèlement la tradition. Et puis il y a une autre raison, bien sûr, c'est l'apparition de grandes hérésies, comme celle de Marcion, comme celle de Montan. Et, par exemple, nous devons à Marcion une première collection de livres. Marcion, donc, qui a fini par verser dans le gnosticisme pur et dur. Marcion qui vient de Sinope, dans le Pont, dans la région du Pont. Et Marcion, que Polycarpe de Smyrne qualifie de premier-né de Satan, Marcion qui est vers les années 140, est exclu par un collège de presbytres romains, puisque d'Asie Mineure il est venu à Rome, eh bien, versant dans le gnosticisme, il expurge complètement le canon biblique. Bon, vous savez que les gnostiques postulaient plusieurs dieux et que la création de ce monde, qui est une œuvre mauvaise pour eux, eh bien, est l'œuvre d'un démiurge mauvais, et ce démiurge mauvais, évidemment, c'est le dieu de l'Ancien Testament. Donc, dans le canon marcionite, l'Ancien Testament est purement et simplement évacué. Et puis, dans les écrits du Nouveau Testament, il retient simplement quelques fragments de l'Évangile de Luc, quelques épîtres pauliniennes, et le montanisme, lui, qui est un qui vient de Montan, je ne sais pas comment on prononce, qui est un moine de Phrygie au IIe siècle, qui prétend avoir reçu des révélations particulières du Saint-Esprit, et qui annonçait l'imminence de la fin du monde, bon, se caractérise comme un millénarisme doublé d'un ascétisme excessif, et rejette également les écrits du Nouveau Testament, ne s'appuie que sur quelques fragments, par exemple Jean 14, 15 et 16. Mais donc ces premières listes que nous devons à des hérétiques vont obliger l'Église à produire une liste, enfin, c'est pas le terme qu'il faut, parce que c'est une démarche guidée par l'Esprit-Saint, c'est une démarche authentiquement spirituelle, une démarche de foi qui aboutira à une liste d'ouvrages canoniques reconnus comme tels. Mais l'Église sera contrainte donc à produire cette liste à cause des hérésies que je viens de nommer. Et on a déjà plusieurs attestations très tôt d'une liste d'ouvrages canoniques, non seulement pour l'Ancien Testament, mais pour ce qui nous occupe, pour le Nouveau Testament. Le fragment de Muratori, qui est un texte occidental, qui représente l'emploi du Nouveau Testament à Rome, tout début du IIe siècle, et qui contient pour l'essentiel les écrits du Nouveau Testament tels que nous les connaissons à l'heure actuelle. Très tôt, l'expression Nouveau Testament, bon, j'en ai parlé de cette expression, mais très tôt, elle a servi à désigner les écrits chrétiens sacrés. Par exemple, Méliton de Sardes, il va parler des écritures juives comme de l'Ancien Testament. Si on parle des écritures juives comme de l'Ancien Testament, cela suppose que les écritures chrétiennes reçoivent le qualificatif de Nouveau Testament. Alors ensuite, et un peu plus tard, parce que il faut distinguer deux choses, je le rappelle, hein, faut pas faire de confusion dans ce domaine. Les quatre évangiles, les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, etc., sont reçus très, très, très rapidement. Hein, les saints apôtres et disciples du Seigneur fondent des églises et leur écrivent. Ce sont les épîtres tels que nous les connaissons. Et évidemment, ces épîtres sont conservés tout à fait pieusement, eu égard au prestige des apôtres du Seigneur dans les communautés chrétiennes. Et très tôt, elles vont faire circuler entre elles ces écrits apostoliques. Les évangiles, les quatre évangiles que nous connaissons, sont reçus très très tôt. Il y a un document qui est contemporain de la troisième étape de la rédaction des évangiles, donc l'étape de la mise par écrit définitive des évangiles tels que nous les recevons, hein, c'est celui de la Didaké qui cite ces évangiles. Donc, c'est pas du tout une rédaction tardive à laquelle nous avons affaire, mais ce sont des écrits qui voient le jour peu d'années après que le Seigneur ait rejoint le sein du Père. Alors, on a d'autres listes, hein. J'ai cité Méditon de Sartre qui fait allusion aux écrits du Nouveau Testament. J'ai cité le fragment de Muratori. On pourrait citer aussi toutes les citations qui sont faites des évangiles et des épîtres dans les écrits des pères apostoliques, je vais y revenir. Et puis, on a des listes un peu plus tard. On a des listes. Les listes d'Origène, donc 3e siècle. Les listes d'Eusèbe de Césarée. Les listes d'Athanase, l'archevêque d'Alexandrie. Les listes d'Augustin en Occident et des conciles d'Hippone et de Carthage, qui certifient l'unanimité des églises, qui offre déjà un canon complet. Alors, quels sont les critères de la canonicité? Au nom de quels critères tel ou tel écrit va rentrer dans le corpus du Nouveau Testament et tel autre va, au contraire, en être exclu? D'abord, disons que la fixation du canon des écrits du Nouveau Testament n'a pas été une tâche simple, facile, qu'elle a obéi à des critères rigoureux de discernement, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, chaque livre, tel que nous les connaissons, chaque livre sacré est reconnu comme canonique à partir du moment où il est définitivement fixé par écrit, ça va sans dire. Bon. Et l'ensemble des écrits de la Bible chrétienne jouit de canonicité, pardonnez-moi, lorsque le dernier livre qu'elle contient a été mis par écrit. Pas besoin de le répéter non plus. Donc, le processus pour reconnaître cette canonicité, ben, il va prendre du temps. Il est parfois complexe, nous verrons pour certains écrits, dans les facteurs qui sont intervenus, mais c'est un processus sûr parce qu'il se fait sous la guidance du Saint-Esprit, avec tout le discernement nécessaire. L'Église n'a pas agi à la va-vite ni au hasard. C'est l'Église en prière sous l'invocation du Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour la fixation de ce canon biblique qui ne s'est pas fait dans je ne sais quel cabinet de savants, si méritant soit-il. C'est l'Église en prière sous la guidance du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce même esprit qui a inspiré les Écritures et qui a assisté l'Église pour les reconnaître comme inspirées. Hein, puisque dans le canon du Nouveau Testament, ça va sans dire, ne vont entrer que des écrits inspirés. Alors quels sont les différents critères auxquels l'Église a eu recours? Le premier d'entre eux, c'est l'origine apostolique des écrits. Au début de la vie ecclésiale, les écritures chrétiennes, donc, n'existaient pas. Se transmettaient par l'oralité les enseignements du Seigneur, par l'enseignement des apôtres qui rapportaient l'enseignement et les faits et gestes du Seigneur, qui proclamait le kérigme, la mort et la résurrection du Christ, mais ces écrits n'existaient pas, comme cela a été dit. En fait, si vous voulez, dans cette période-là, l'Église n'a comme référence que quelqu'un qui est la personne du Christ. Et on peut dire que le canon dont elle dispose à ce moment-là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'autorité absolue du Christ qui est, si j'ose dire, si transcendante qu'elle est même considérée comme supérieure au livre sacré. Donc, c'est Jésus qui est le canon, en quelque sorte, et ce sont les apôtres qui sont les dépositaires de cette révélation de Jésus, et qui sont à leur tour le canon vivant, les interprètes seuls autorisés du message et du dessein de Dieu accompli par le Christ Seigneur. Et dans la deuxième moitié du premier siècle, les églises destinataires de quelques écrits apostoliques, bon ben, ils vont les conserver en quelque sorte avec un respect tout sacré, parce que ces écrits viennent des témoins oculaires du ressuscité. Et peu à peu, ces écrits vont faire l'objet d'échanges d'une église à une autre. Ils vont se communiquer ces écrits. Donc, le fait que les écrits apostoliques n'aient pas été initialement cités comme écriture ne signifie pas qu'ils n'étaient pas considérés comme ayant la même autorité. Ils étaient considérés même avec une autorité supérieure, puisqu'ils avaient l'autorité de Jésus et des apôtres. Donc, le critère numéro un, c'est l'origine apostolique des écrits. Pour qu'un écrit puisse être tenu pour authentique, il fallait qu'il soit d'origine apostolique. Écrit par un apôtre ou par quelqu'un qui lui est immédiatement proche, par exemple, comme c'est le cas de Luc avec Paul, comme c'est le cas de Pierre, de Marc avec Pierre, que Saint-Irénée de Lyon nomme l'interprète autorisé de Pierre. Le second critère, après celui de l'origine apostolique, c'est l'usage liturgique. C'est un critère, ça, qui est valable pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau Testament. Nous l'avons vu, que ce critère, l'usage liturgique, est tout à fait fondamental pour qu'un écrit soit reçu comme canonique, à la fois dans l'Église, mais aussi pour la synagogue juive. Ça a été la même chose pour les critères, pour les écrits de la Bible hébraïque. Alors, les premiers livres qui ont été utilisés officiellement dès les tout premiers temps dans la liturgie chrétienne, ce sont les évangiles, pas nécessairement les évangiles dans leur rédaction finale, ce sont des pré-évangiles qui d'ailleurs peuvent s'appuyer eux-mêmes sur un proto-évangile jérusalémite. C'est une hypothèse intéressante qui a été formulée. Mais ce sont donc les évangiles, même s'ils sont encore dans une phase finale de rédaction encore inachevée, donc appelons-les pré-évangélique. Nous savons par ailleurs par 2 Pierre 3, 14, 16 qu'un corpus d'épîtres pauliniennes circule parmi les églises et qu'il est élu publiquement, donc liturgiquement, à la fin du 1er siècle. Nous en avons l'attestation. Alors, selon le critère de l'usage liturgique, il fallait examiner si un livre déterminé avait été lu dans les assemblées chrétiennes depuis quand ? Depuis les temps apostoliques, ou s'il y était entré seulement dans des périodes récentes. Donc là, dans ce deuxième cas, c'était sujet à controverse, comme vous pouvez vous en douter. On sait qu'on lisait en public d'autres écrits, comme la Didaké, comme les deux épîtres de Clément de Rome, comme le Pasteur d'Hermas, comme le Livre d'Enoch, qui n'ont jamais été recueillis dans le canon, parce qu'on a tenu compte d'autres critères, par exemple l'orthodoxie ou l'origine apostolique. Donc, troisième critère, c'est l'orthodoxie de l'écrit. Aucun, absolument aucun livre ne pouvait être authentique s'il contenait une interprétation du mystère de Jésus contraire à la tradition reçue des apôtres. C'est-à-dire que s'il contenait une interprétation qui n'était pas orthodoxe selon la voie droite, qui s'identifie avec la tradition reçue des apôtres. C'est ainsi, par exemple, que il y eut en Orient des doutes sur le millénarisme ou non de l'Apocalypse et qui ont fait hésiter un temps de sa canonicité. Un autre exemple, c'est que l'Évangile de Pierre. Connaissons un écrit qui s'appelle l'Évangile de Pierre, qui fut tenu pour apocryphe justement pour des raisons doctrinales, malgré qu'il portait le nom d'un prestigieux apôtre du Seigneur. Et Eusèbe de Césarée, d'ailleurs, nous en livre un témoignage dans son Histoire ecclésiastique. L'évêque Sérapion, qui était à Antioche, vers 190, visite une communauté à Rossos de Cilicie, où il trouve cette communauté qui est en désaccord entre elles sur la lecture officielle d'un écrit qui s'appelle Évangile de Pierre. Donc, Sérapion commet l'imprudence de donner la permission de lire cet écrit, placé sous le patronage prestigieux de Saint-Pierre, à la lecture publique, mais sans l'avoir lu personnellement. Et c'est là qu'il a été imprudent. Mais quand il rentre à Antioche, ça c'est Eusèbe de Césarée qui nous le rapporte, quand il rentre à Antioche, il lit cet évangile de Pierre et il se rend compte, en le confrontant aux évangiles apostoliques, qu'il était hérétique, et donc il interdit sa lecture publique. J'ai dit précédemment qu'on lisait certains textes. Vous savez que dans le Sinaiticus, l'Alexandrinus, etc., on trouve des écrits du Nouveau Testament, mais aussi des écrits de l'Église primitive, comme la Didaké, les deux épîtres clémentines, le Pasteur d'Hermas, etc. Bon. Ces écrits ne comportent aucune hérésie doctrinale, mais n'ont pas été retenus dans le canon parce qu'ils ne sont pas précisément d'origine apostolique. Ils sont l'œuvre de pères apostoliques, mais ils ne sont pas l'œuvre des témoins oculaires du Christ depuis le baptême au Jourdain jusqu'à l'ascension au ciel. Alors évidemment, vous me direz, alors à ce moment-là, saint Paul ne correspond pas à ce critère. Mais saint Paul, d'une manière spécifique, est apôtre. Il n'a pas été apôtre comme les autres, mais il a été témoin oculaire du Christ. Le Christ, il a vu le Christ et le Christ lui a parlé, le Christ l'a enseigné. Et donc, sa qualité d'apôtre a été reconnue par l'Église. Alors, un quatrième critère renvoie à la liste, aux listes anciennes du canon. Donc, la formation d'une liste implique l'acceptation des livres énumérés comme livres d'un caractère particulier. Si, avec la liste des livres du Nouveau Testament, il y a une liste de ceux de l'Ancien Testament, cela donc, hein, depuis ce que j'ai cité de Méliton de Sardes, cela implique l'acceptation des livres néo-testamentaires comme écriture sainte. J'ai cité Méliton, j'ai cité le canon de Muratori avec le fait qu'il contient 22 livres sur 27. Je cite également les listes établies par saint Irénée de Lyon, par Tertullien qui ont aussi 22 livres. Et il faut citer, c'est plus tardif, mais ça correspond à la fixation définitive du canon, la lettre festale de saint Athanase d'Alexandrie pour la Pâque de l'an 367, où là sont énumérés sans aucune hésitation les 27 livres du Nouveau Testament. Alors, dans le discernement de l'Église pour établir la liste des livres devant entrer dans le canon du Nouveau Testament, ces critères jouent ensemble. Donc, il fallait la conjonction de ces critères pour que ces livres entrent dans le canon. Alors maintenant, voyons rapidement le témoignage des pères, parce que là, je dépasse un peu mon temps. Le témoignage des pères et des auteurs chrétiens sur la période de la formation du canon du Nouveau Testament. Jusque vers 130, on peut, avant de voir le témoignage des pères, voir les témoignages que se rendent les textes du Nouveau Testament entre eux. C'est pas inintéressant, parce que vous savez que ces textes se connaissent entre eux. Saint Luc, bon, dit avoir, je l'ai dit tout à l'heure, connu de nombreux écrits contenant la vie et l'enseignement du Christ. Et nous savons qu'il, ce n'est pas une nouveauté, hein, il existe un lien de dépendance entre les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, ça veut dire d'un seul regard, hein, qui embrasse d'un seul regard. L'évangile selon saint Jean, qui est le plus tardif chronologiquement, mais qui est aussi l'œuvre d'un témoin oculaire, donc le disciple bien-aimé, ben, il connaît, par exemple, nous en avons l'attestation, il connaît l'évangile de Marc. Nous savons par le témoignage de Papias de Hierapolis, qui appartenait à la génération apostolique, qui suit les apôtres, eh bien, Papias de Hierapolis nous apprend que saint Jean connaissait l'évangile hébreu de saint Matthieu, aujourd'hui perdu, et l'évangile de saint Marc. Il ne les cite pas explicitement, bien sûr, dans son évangile, mais il les complète sans les démentir. Il n'a pas besoin de les répéter, il les complète. Il envisage le mystère du Christ et avec quelle hauteur, sous un angle différent, en complétant les évangiles synoptiques. Pour les épîtres de saint Paul, nous pouvons recueillir quelques indices utiles. Par exemple, lorsque l'apôtre prescrit aux Colossiens de communiquer sa lettre aux Laodicéens, et réciproquement, lorsqu'il réclame une copie de celle qu'il a adressée aux Laodicéens. Donc c'est en Colossiens 4,16. Nous savons également que saint Jacques vise à différentes reprises l'épître aux Romains. C'est à voir dans Jacques chapitre 4. Or Jacques est à Jérusalem. Paul, bien sûr, a fait des séjours à Jérusalem. Et c'est donc que la lettre de Paul a circulé dans d'autres églises que celle à laquelle elle était destinée. Et on va voir d'ailleurs tout le corpus paulinien circuler dans les différentes églises fondées par les apôtres. Saint Pierre lui-même est instruit du contenu de l'épître aux Éphésiens. C'est très clairement affirmé en 1 Pierre 3,22. Et même dans plusieurs autres, 2 Pierre 3, 15-16. Donc, la deuxième épître de Pierre paraît aussi avoir fait allusion à l'épître de Jude, qui paraît l'avoir précédé. Donc, vous voyez, il y a le témoignage primitif que se rendent les écrits du Nouveau Testament entre eux. Donc de cette diffusion des écrits apostoliques, avant même que le dernier des apôtres ait quitté cette terre, eh bien, de cette diffusion, il y a très clairement une tendance à la formation des premiers recueils, plus ou moins complets, mais des premiers recueils d'écrits du Nouveau Testament. Il y a donc, s'agissant des témoignages des pères. Il y a des témoins, par exemple en Occident, à Rome, l'évêque Clément qui écrit à l'église de Corinthe deux épîtres, une particulièrement longue qui est la première, dans laquelle il cite les paroles du Christ qui se lisent textuellement dans les évangiles synoptiques. Il y a un ensemble de citations qui sont conformes à l'évangile de saint Matthieu et aussi des citations qui s'approchent de Marc et de Luc. On n'a pas dans les épîtres clémentines de citations explicites de saint Jean, mais on a remarqué en confrontant les textes de ces épîtres avec l'évangile de saint Jean, la proximité du langage théologique entre les épîtres de Clément avec l'évangile de Jean. Donc, c'est des lettres qui sont connues à Rome, les évangiles, l'épître aux Hébreux, la première de Pierre sont citées également dans les épîtres clémentines. Dans la Didaké, l'évangile est cité comme un livre ou comme une collection de livres bien déterminés. Il y a des citations de saint Luc, de saint Matthieu, il y a des citations des Actes, et il y a des passages, des prières liturgiques. Vous savez que la Didaké contient un certain nombre de prières liturgiques, et notamment celle de la fraction du pain, et qui s'apparentent, il suffit d'être attentif aux deux textes, qui s'apparentent au quatrième évangile. Il y a également le proto-évangile de Jacques, qui emprunte aux évangiles de Matthieu et de Luc des récits concernant l'enfance du Seigneur, qui les explique et qui les complète. Il y a, on pourrait multiplier les exemples, je vais forcément m'arrêter, mais il y a les magnifiques écrits de saint Ignace d'Antioche, où il est fait appel à saint Matthieu et à saint Jean. il y a les écrits de saint Polycarpe de Smyrne, saint Ignace d'Antioche cite aussi, pardon, les épîtres, abondamment les épîtres pauliniennes, corinthiens, l'épître aux Romains, aux Galates, Éphésiens, Timothée, Tite, et également le livre des Actes, saint Polycarpe de Smyrne, qui se sert des évangiles, qui se sert des épîtres de saint Paul, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, Timothée, 1 et 2 Pierre, 1 de saint Jean. Bon, voilà, on a une foultitude de témoignages des pères apostoliques, bon, des témoignages déjà que se rendent entre eux les écrits du Nouveau Testament, et des témoignages des pères apostoliques qui, dans leurs écrits adressés aux églises, eh bien, se servent abondamment des textes qui figurent dans notre Nouveau Testament. Ensuite, et je saute toute une période dont j'aurais pu parler, mais ça serait trop long, sur la base de ces critères, bien sûr, la présence des écrits du Nouveau Testament est attestée, et en particulier la vénération dont ils font l'objet, puisqu'ils sont lus dans les églises, par exemple. Saint Justin, philosophe et martyr, nous dira que le dimanche, le premier jour de la semaine, on lit les mémoires des apôtres, on lit la prophétie et les mémoires des apôtres. Les mémoires des apôtres, là, ce ne sont pas les épîtres, mais ce sont les évangiles. Et donc, lorsque, d'une manière générale, on a une attestation formelle de ce type, il faut savoir que c'est une pratique qui remonte très loin dans le temps. Ce n'est pas une pratique nouvelle. Si c'était une pratique nouvelle, on le signalerait comme telle. Mais l'attestation écrite témoigne de l'antériorité d'une pratique ancienne déjà très longue. Donc peu à peu, ce corpus des écrits du Nouveau Testament va se fixer. Alors il y aura des discussions, par exemple j'ai cité l'Apocalypse tout à l'heure, qui n'a pas été d'emblée reçu en Orient, alors qu'il était reçu en Occident. L'Épître aux Hébreux qui était reçu en Orient, considéré comme de la main de saint Paul, alors qu'il n'était pas reçu en Occident, l'Occident considérant qu'il y avait un doute sur le fait que cet écrit entre dans le canon, parce qu'il y avait un doute sur son auteur, tout simplement, hein. Et l'épître de Jacques et l'épître de Jude aussi ont fait l'objet de discussions, mais tous ces écrits ont fini par entrer, le consensus des églises s'est imposé, même en faveur de ces écrits qui, dans un premier temps, ont fait l'objet de discussions. Donc, on a au IIIe siècle, on a le canon qui est complètement fixé avec les écrits que nous connaissons à l'heure actuelle, ces écrits du Nouveau Testament qui vont faire autorité, qui vont constituer la deuxième partie de l'Écriture avec l'Ancien Testament, parce que contre l'hérésie marcionite, contre les gnostiques. L'Église a toujours souligné l'unité fondamentale de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament permet d'interpréter l'Ancien, et l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament. On ne peut pas séparer les deux parties de l'Écriture. Et on voit, donc ça c'est un principe intangible dans l'histoire de l'Église, et on voit, pour ce qui concerne les écrits des pères, par exemple, combien, pour leur interprétation des Écritures, ils font appel à l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Allez voir avec les écrits de Théophile d'Antioche, de Saint-Irénée de Lyon, de Clément d'Alexandrie, d'Origène, et vous verrez qu'il y a une circulation incessante entre les écrits des deux testaments, ce qui correspond d'ailleurs, parce que c'est la clé interprétative a été donnée sur le chemin d'Emmaüs par le Christ lui-même. Ce n'est pas l'Église qui a inventé le critère d'interprétation de l'Écriture, c'est le Christ lui-même qui en a donné le sens. Il a dit « Sondez les Écritures, elles me rendent témoignage », et en commençant par la loi et les prophètes, il les instruit de tout ce qui le concernait dans les Écritures, depuis Moïse, dit l'entretien avec les pèlerins d'Emmaüs. Donc, on voit au IVe siècle des listes, j'ai cité Athanase d'Alexandrie par exemple, donc des listes qui correspondent trait pour trait à nos 27 livres du Nouveau Testament. Toutefois, comme pour l'ensemble du canon, Ancien et Nouveau Testament, dans l'orthodoxie chrétienne, il n'y a jamais eu une liste exhaustive publiée. Bon, il y a unanimité totale de la tradition ecclésiale sur les 27 livres, mais il y a, et j'en terminerai là, donc pas eu de liste exhaustive, parce que pour ce qui concerne l'Ancien Testament, je l'avais dit dans le cours précédent, bon, il y a différentes traditions locales dans l'Église qui font que certains livres appelés Anagignos Comena ou deutérocanoniques en Occident ont été reçus et pas d'autres, et inversement pour d'autres églises. Donc ce canon des livres du Nouveau Testament repose sur les critères que j'ai énumérés, repose sur l'unanimité de l'ensemble des églises qui, de ce fait, le reconnaissent comme parole de Dieu, comme parole de vie, comme livre dans lequel nous rencontrons non pas simplement une écriture, mais à travers l'écriture, nous sommes invités à la rencontre de la personne du Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme et qui est au centre de toute l'écriture, Nouveau Testament et Ancien Testament. Merci de votre attention. Alors donc la prochaine fois, nous parlerons des paraboles dans les évangiles synoptiques.